Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Le 7 juillet 1456, il y a tout juste 550 ans, se terminait le procès qui proclamait la totale réhabilitation de Jeanne d'Arc. 25 ans après sa mort sur le bûcher, à Rouen, le 30 mai 1431, un quart de siècle donc sépare le supplice de Jeanne de sa réhabilitation. Ce procès en réhabilitation pose 1000 questions. Pourquoi réhabiliter celle qui avait été condamnée comme hérétique et relapse? Et d'ailleurs, que signifient précisément ces deux mots? Qui a décidé d'entamer un procès en réhabilitation? Comment s'est-il déroulé? Pourquoi avoir attendu 25 ans? Autant de questions que nous allons aborder avec mon invité, Monsieur Philippe Contamine, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 1990, médiéviste éminent. Monsieur Contamine, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Vous avez été professeur d'histoire du Moyen-Âge dans plusieurs universités, notamment à la Sorbonne. Vous présidez un grand nombre de sociétés savantes consacrées aux études sur la civilisation médiévale. Et vous avez tant publié sur le Moyen-Âge, sur l'État, la guerre, la société, la ville, la noblesse, l'économie et les impôts notamment, sur la bataille d'Azincourt, la guerre de Cent Ans, sur le XIVe et le XVe siècle en général. Bref, aucun aspect de la vie de cette époque, tant en France qu'en Angleterre, sans oublier l'Italie, la Bourgogne, l'Écosse et tous les autres pays, rien n'a échappé à vos connaissances. Alors vous me pardonnerez donc de ne pouvoir citer ici toutes vos publications. Nos auditeurs qui voudraient les connaître en trouveront le détail sur le site de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, aibl.fr. Relativement à Jeanne d'Arc, je voudrais seulement préciser, Monsieur Contamine, que vous avez dirigé le centre Jeanne d'Arc d'Orléans de 1985 à 1990, succédant ainsi à Régine Pernoud. Si vous le voulez bien pour nos auditeurs, nous allons rappeler brièvement quelques grandes dates relatives à Jeanne d'Arc. Donc, en 1429, après avoir été reçue par Charles VII à Chinon, elle délivre Orléans le 8 mai et elle fait sacrer le roi à Reims le 17 juillet. Mais l'année suivante, 1430, elle est capturée à Compiègne par un bourguignon qui la vend aux Anglais. Vous êtes d'accord jusque-là?
Voilà.
Ben voilà, on pourrait peut-être donner des nuances. Elle est emprisonnée à Rouen et son procès commence alors à Rouen le 9 janvier 1431 et il dure jusqu'au 30 mai, donc 6 mois, et elle est brûlée vive le 30 mai 1431. Alors, Monsieur Contamine, on dispose de toutes les minutes du premier procès de Jeanne d'Arc. Pourquoi, 25 ans après le supplice sur le bûcher, a-t-on jugé nécessaire de rouvrir ce procès? Est-ce qu'il n'était pas, selon les règles, selon les lois, selon la procédure en vigueur de l'époque?
Je crois qu'il y a deux aspects. D'abord, effectivement, on a pu contester la validité juridique du procès de 1431. Et puis ensuite, le contexte politique était tout différent. Et donc, on a essentiellement rouvert ce procès parce que Charles VII considérait que son honneur était engagé et qu'il ne voulait pas devoir son trône à l'action d'une hérétique brûlée publiquement à l'issue d'un procès d'inquisition, comme vous l'avez dit, à Rouen en mai 1431. Par conséquent, c'est avant tout l'intérêt du roi de France qui est en jeu.
Mais c'est-il manifesté?
Un deuxième intérêt, si vous voulez, c'est l'intérêt de la famille de Jeanne d'Arc. Parce que Jeanne d'Arc avait une mère, à l'époque, Isabelle Romée, qui était une vieille femme, mais qui a initié ce projet. Et puis, d'autre part, Jeanne d'Arc avait encore deux frères, Pierre et Jean, qu'on voit intervenir lors du procès de réhabilitation.
Alors, que voulait dire exactement cette condamnation hérétique et relapse?
Alors donc, hérétique, elle a été condamnée pour toutes sortes de raisons, si vous voulez. Les chefs d'accusation sont tout à fait nombreux. Mais en gros, je crois que l'essentiel, c'est son insoumission à l'Église enseignante telle qu'elle était représentée à Rouen par l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, et par ses assesseurs et par les autres juges, et également par l'Université de Paris, qui a été consultée sur ce point, notamment l'Université de Décret et l'Université de Théologie. Par conséquent, lorsque tous ces prélats éminents, tous ces théologiens, tous ces canonistes lui ont dit « il n'est pas possible, il n'est pas vraisemblable que les voix que tu as entendues, que tu as prétendu entendre, que les visions que tu as prétendu avoir sont d'origine divine, fais-nous confiance, c'est nous qui sommes véritablement juges de l'authenticité de ses voix », elle a refusé. Elle a refusé quasiment jusqu'au bout, enfin il y a tout un problème à ce sujet, et par conséquent elle a été jugée comme insoumise à l'Église, comme obstinée dans ce refus de se soumettre à l'Église représentée par les juges du procès. Alors donc pourquoi relapse ? Eh bien parce que dans un premier temps, elle a refusé de reconnaître le caractère suspect de ses voix et de ses visions. Et puis, le 24 mai 1429, la fameuse scène du cimetière de Saint-Ouen, alors que le bûcher était préparé, elle a, pour employer un terme un petit peu ordinaire, craqué, et elle a reconnu qu'elle s'était trompée. Et par conséquent, elle a abjuré. Et puis après cette abjuration, quelques jours après, quelques heures après, elle est revenue sur cette abjuration. Par conséquent, elle est retombée dans l'hérésie, relapse. Et à ce moment-là, il y a eu un deuxième procès, disons, qui occupe la fin du mois de mai 1431. À l'issue de ce deuxième procès, elle a été livrée au bras séculier, condamnée à mort, condamnée au bûcher. Et même on peut dire qu'il y a une troisième phase, que les juges du procès de réhabilitation, ou du procès, comme on dit aujourd'hui plus techniquement, en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc, eh bien cette troisième phase aurait eu lieu juste avant son exécution, et elle aurait de nouveau reconnu que ses voix l'avaient trompée. Elle n'a pas reconnu, disons, qu'elle avait elle-même invoqué des forces diaboliques, mais elle a reconnu, semble-t-il, d'après ce qu'on appelle l'information posthume, elle a reconnu qu'elle avait été trompée par ses voix. Donc il y a cette troisième phase que les juges du procès en nullité n'ont pas reconnue comme valide, comme valable, mais qui existe quand même à la fin du texte du procès de condamnation.
Alors, Monsieur Contamine, ces juges, justement, lors du premier procès, étaient-ils tous unanimes à condamner Jeanne d'Arc, ou certaines voix s'étaient-elles élevées pour dire « la procédure n'est pas respectée » Enfin, est-ce que les juges avaient été unanimes ?
Il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions qui apparaissent évidemment au moment du procès en nullité, parce que à ce moment-là, les juges cherchaient à se dédouaner. Mais au moment même, semble-t-il, il y avait au sein de ces juges très nombreux, c'est un procès collectif pour ainsi dire, des dizaines de personnes ont été concernées par ce procès, et certains hésitaient, certains pensaient en particulier qu'une peine légère était suffisante. Bon, et puis d'autres, au contraire, la majorité, l'immense majorité, conduite par Pierre Cochon, a déclaré que Jeanne d'Arc était authentiquement obstinée, pertinaxe, hérétique, et que par conséquent, à partir du moment où elle était relapse, il n'y avait plus rien à faire pour la sauver.
Alors, cette figure de Pierre Cochon, vous avez dit qu'il était l'évêque de Beauvais. Or, elle a été arrêtée à Compiègne. Est-ce qu'on était dans le même diocèse ? Et puis, il était l'ancien recteur de l'Université de Paris. Or, l'Université de Paris n'est pas très favorable au roi de France, enfin à Charles.
Eh bien, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre la situation politique. Il y a deux rois de France.
Oui.
Et l'Université de Paris, comme un certain nombre de forces politiques dans le nord du royaume considèrent, depuis le traité de Troyes de 1420, que le véritable roi de France, c'est Henri VI, roi de France et d'Angleterre.
Oui.
Et puis l'autre partie, eh bien, c'est Charles VII qui lui aussi se considère comme le véritable roi de France. Par conséquent, l'Université de Paris estime être du côté de la légitimité. Il y a deux rois, c'est un schisme royal. Et l'Université de Paris a estimé, à tort ou à raison, j'essaie de la défendre si vous voulez, je ne suis pas forcé du reste, mais à tort ou à raison, elle estimait que la solution arrêtée par le traité de Troyes, la paix finale et générale de Troyes, était une solution somme toute assez bonne, puisqu'il y aurait un seul roi pour deux royaumes d'égale dignité. Alors là-dessus, eh bien, il y a eu le Charles VII, il y a eu celui qu'on appelle le roi de Bourges, n'est-ce pas, qui n'a pas accepté la validité du traité de Troyes. Et puis, Jeanne d'Arc est arrivée là-dedans pour, disons, les anglo-français. Jeanne d'Arc a rallumé la guerre à un moment où elle pouvait s'éteindre par la défaite de Charles VII.
Il faut rappeler en effet que le jeune Henri VI d'Angleterre avait été sacré roi de France, tout de même, à Paris, la même année que la mort de Jeanne d'Arc, 1431.
Il n'était pas encore roi de France. Sacré roi de France. Il n'était pas encore sacré roi de France, mais il l'a été à Notre-Dame de Paris en décembre 1431.
Oui.
Bon, je ne sais pas si c'est un véritable sacre, parce que le véritable sacre, c'est Charles VII qui l'a
eu. Oui, il y avait des rites. Oui.
À Reims, n'est-ce pas? Bon, c'est le lieu du sacre, et puis avec la Sainte Ampoule, etc. Mais enfin, il a été roi de France, et déjà auparavant, il avait été sacré roi d'Angleterre. Alors, Henri VI était du reste en France à ce moment-là, il était tout jeune, il avait à peine une dizaine d'années, il n'avait pas vraiment le pouvoir. Le pouvoir appartenait à son oncle, le duc de Bedford, qui manifestement est derrière Cochon. Donc Cochon, c'est un prélat politique très fortement engagé dans l'union des deux royaumes. Donc c'est à la fois un prélat, disons, entre guillemets, honorable, ayant un certain savoir-faire, une certaine culture, mais c'est un prélat fondamentalement politique. Et donc il faut, je crois, souligner le fait que le procès de Rouen, le premier procès, le procès de condamnation, est un procès d'église avec un arrière-plan politique, même s'il est très masqué, très fort. Et le procès en nullité de la condamnation, de 1455-1456, est un procès d'église avec, là aussi, à l'arrière-plan, une poussée politique, une ambition politique, un désir politique qui explique, disons, son ouverture et qui explique également ses résultats.
Et en effet, parce que la situation politique donc a changé. En 1437, Charles VII était rentré à Paris, donc il avait au fond repris son pouvoir. Et puis surtout en 1453, les Anglais avaient essuyé une défaite à Castillon qu'on peut considérer, ou que les historiens considèrent comme la dernière bataille de la guerre de Cent Ans. Donc en 1555-56, on était prêt, la situation avait changé.
Tout à fait, je crois que la situation a changé en 1450, 1449-1450, lors de la reconquête par Charles VII de la Normandie. Charles VII est entré à Rouen en novembre 1449, et presque aussitôt, lui, ses conseillers, se sont préoccupés du procès de condamnation. Jusqu'à présent, il ne semble pas qu'ils en aient eu le texte. Donc, ils ne savaient pas son contenu. Tout ce que Charles VII savait, c'était cette encyclique que Cochon, que l'Église, que le roi d'Angleterre avaient envoyée en juin 1431 à l'ensemble de la chrétienté pour expliquer comment et pourquoi Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, avait été correctement, valablement jugée et condamnée. Donc c'est la version
officielle, oui,
la version Cochon, la version Henri VI, la version Bedford que Charles VII a nécessairement reçue. D'où, évidemment, son très grand embarras, indépendamment de la psychologie de Charles VII, etc., et son silence entre 1431 et 1453. 50. Et la meilleure preuve qu'il y a cette espèce de diffusion de la version officielle, c'est que cette version, non seulement a atteint la France anglaise, mais également a atteint la France française, l'Empire et ailleurs. Donc, voyez-vous, il était dans un très grand embarras. Mais en 1450, il a sous les yeux, ou ses conseillers ont sous les yeux, le texte du procès de condamnation, et ils estiment qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a possibilité de rouvrir valablement ce procès et d'en contester la démarche et les conclusions.
Et pendant ce temps-là, la mère de Jeanne d'Arc, car c'est une figure très étrange, cette femme devait être illettrée, je suppose,
oui,
et elle fait appel au pape pour que le pape appuie cette réouverture de procès.
Oui, mais enfin, disons que derrière, il y a le roi de France.
On s'en doute, mais enfin, tout de même, c'est courageux de la part d'une mère.
C'est courageux,
c'est formidable.
C'est courageux, c'est une très vieille femme, etc., qui du reste s'est manifestée à l'ouverture même du procès dans la sacristie de Notre-Dame de Paris, et puis ensuite elle disparaît, je pense qu'elle regagne Orléans, mais il y a également les frères
qui avaient combattu avec Jeanne,
oui,
qui
est
à ses côtés.
Eh bien, en particulier, Pierre a été fait prisonnier, comme Jeanne, à Compiègne. Mais Pierre a été libéré contre rançon, alors que Jeanne, elle, a eu le sort que nous connaissons pour des raisons officiellement religieuses.
Philippe contamine l'instruction de ce procès en nullité de la première condamnation de Jeanne d'Arc. Elle est confiée à Jehan Bréal, grand inquisiteur de la foi pour le royaume de France. Qui est ce Jehan Bréal? Que peut-on dire
c'est
de lui?
C'est un dominicain. C'est un dominicain de bonne facture qui a, disons, résumé dans ce qu'on appelle la récollectio l'ensemble des arguments qui permettaient de conclure à la non-validité du procès de 1431. Mais il y a eu également d'autres prélats intéressés. Il y a le cardinal Guillaume d'Estouteville, archevêque de Rouen, qui servait d'intermédiaire entre le pape Calixte III et puis le roi de France. Et il y a également Jean Juvénal des Ursins, qui à ce moment-là était archevêque de Reims et qui, somme toute, lui aussi, à sa manière, a donné le feu vert pour la réouverture du procès. C'est exceptionnel.
Oui, dans l'histoire, il n'y en a pas beaucoup.
Vous comprenez que l'Église médiévale se déjugeant solennellement, il fallait quand même, disons, la repentance.
C'est une sorte de repentance. Il faut insister sur ce plan.
Une forme de repentance, si vous voulez. Ça n'était pas si commode et ça n'était pas si aisé. Il fallait de bons arguments, etc. Alors, ce procès en nullité de la condamnation, la formule a été avancée par Pierre Duparc, qui a fait une magnifique édition de ce procès pour la Société de l'Histoire de France en 5 volumes il y a quelques années. Ce procès en nullité, évidemment, nous dérange un petit peu dans la mesure où ce qu'on attendrait, c'est, disons, une sorte d'accusation, à savoir l'inquisiteur Bréal, le roi de France, et puis également les accusateurs, c'est-à-dire la famille de Jeanne d'Arc, qui souhaitait sa réhabilitation, son retour à sa bonne renommée, à sa bonne fama, et puis de l'autre côté, les défenseurs, les accusés, qui auraient pu se présenter et dire « mais nous avons jugé Jeanne d'Arc en toute équité, de bonne foi, pour telle ou telle raison ». Mais il se trouve que à l'époque, Pierre Cauchon était mort, que les autres juges principaux de Rouen avaient disparu et que nul n'a relevé le gant. Voyez-vous, donc ce n'est pas un dialogue entre une accusation et une défense. L'accusation a, pour ainsi dire, le chemin libre. Et au cours du procès de 1455, 1456, même dès 1452, il y a des juges de Rouen qui ont été interrogés, mais qui se sont, pour ainsi dire, dédouanés, ils ont été extrêmement prudents, hésitants, ils n'ont pas répondu, etc. Et par conséquent, il n'y a pas ce choc entre deux interprétations qui, évidemment, intéresserait beaucoup l'historien.
Bien sûr.
Il faut ajouter également un élément qu'on oublie trop souvent, à savoir que Charles VII, lors de sa reconquête du royaume, avait systématiquement délivré à Paris, à Rouen et ailleurs, des lettres d'abolition pour tous ceux qui avaient participé de près ou de loin à la construction de la double monarchie. Par conséquent, on ne pouvait plus les poursuivre puisqu'ils étaient couverts par ces lettres d'abolition royale. Donc c'est un élément extrêmement important. Par conséquent, pour l'historien, on est un petit peu frustré parce que il n'y a pas, si vous voulez, une sorte de défense de Cochon. Et Cochon avait des héritiers, des successeurs, mais qui ont refusé de se mêler. Ils disent non, nous laissons notre oncle tranquille, etc. Il est mort, tant pis pour lui, etc. Donc voyez-vous, c'est ça l'élément. Et des gens comme Martin Ladvenu, comme Thomas de Courcelles, qui ont été juges à Rouen,
au premier procès,
et qui était encore actif. Je crois que Thomas de Courcelles, qui est un personnage considérable, avait, dit-il, 56 ans au moment du procès en nullité. Eh bien, Martin Ladvenu, qui a suivi le procès de très près, puisque c'est lui qui a accompagné Jeanne d'Arc jusqu'à la mort, qu'il a confessé, qu'il a communié, eh bien, Martin Ladvenu ne dit pas grand-chose. Et Thomas de Courcelles est encore plus prudent, si possible. Donc finalement, en gros, ce sont les gens qui sont partisans de Jeanne d'Arc, des gens de bonne foi, du reste, qui sont du côté du vainqueur, du côté de Charles VII, qui ont la parole lors du procès en nullité de la condamnation.
Les historiens aimeraient toujours en avoir plus. Pourtant, pour Jeanne d'Arc, on a beaucoup de sources tout de même.
D'une manière générale, il y a deux types d'historiens. Les historiens qui estiment que le plus beau procès, le plus parlant, le plus éclairant, c'est le procès de condamnation.
Oui.
Et les historiens qui estiment que le plus éclairant, c'est le procès en nullité de la condamnation, parce que nous avons des témoignages irremplaçables, non biaisés par des gens honnêtes, de bonne foi, à la fois sur l'enfance de Jeanne d'Arc à Domremy, puisqu'il y a eu une enquête en Lorraine, à Toul, à Vaucouleurs, à Domremy, des dizaines et des dizaines de témoins. C'est absolument fascinant. Hommes et femmes qui ont bien connu la petite Jeannette, n'est-ce pas, et qui nous ont restitué, peut-être de façon un petit peu enjolivée, la pieuse et laborieuse enfance de Jeanne d'Arc. Et puis nous avons des témoins de son action militaire en 1429, surtout en 1429. Et puis nous avons des témoins de son procès et des témoins de sa fin, particulièrement édifiant. Donc, la substance du procès en nullité est très importante. C'est un procès très riche. Si nous n'avions pas les témoignages, la centaine de témoignages ou un peu plus du procès en nullité, nous serions beaucoup moins éclairés sur la personne de Jeanne d'Arc. Mais cette deuxième catégorie d'historiens déclare, certes, c'est vrai, mais c'est enjolivé, c'est un peu biaisé. Les témoins ont dit ce qui était politiquement correct si
voilà.
Vous voulez. Voilà, un petit peu, c'est ça. Alors, faut une certaine... assez nuancé, si vous voulez, d'une manière générale. Mais je crois que, quand même, le procès de réhabilitation, le procès en nullité, nous apporte beaucoup par des témoins de premier rang, de première force, des gens comme Jean d'Aulon, des gens comme Dunois, etc., des gens comme Raoul de Gaucourt, qui ont vraiment côtoyé Jeanne d'Arc, plus les témoins de l'enfance qui sont incomparables, irremplaçables, et qui donnent à Jeanne d'Arc une figure, une humanité tout à fait extraordinaire.
Ce procès en nullité, s'est-il déroulé à Rouen ou à Reims ?
Non, il s'est déroulé à Rouen. Donc il y a eu, si vous voulez, plusieurs procédures, à savoir que il y a eu, disons, c'est assez long, assez compliqué. Il a été commencé, initié timidement en 1450, puis un premier essai en 1452, puis un deuxième essai, un vrai démarrage en novembre 1455, une fois que le feu vert a été donné par la papauté, pour des raisons de haute politique, parce que je pense, parce que la papauté espérait que si elle faisait un geste vis-à-vis de Charles VII, celui-ci supprimerait ce qu'on appelle la pragmatique sanction de 1438. Donc il y a cet enjeu derrière. Du reste, Charles VII n'a pas changé. Donc peut-être que la papauté a été dupe. Mais enfin, c'est en 1455 que cela démarre. Cela démarre à Paris, à Notre-Dame de Paris. Et puis ensuite, il y a une série d'enquêtes sur place. Enquête en Lorraine, enquête à Orléans, enquête à Paris, enquête à Rouen. Donc on aurait pu avoir d'autres enquêtes, après tout à Compiègne, après tout à Reims, pourquoi pas. Mais on a choisi, pour des raisons qui ne sont pas données, mais enfin qu'on peut soupçonner, on a choisi ces quatre villes. Et puis ensuite, eh bien, il y a retour à Rouen, le lieu de la mort de Jeanne d'Arc, et par conséquent, c'est dans le palais archiépiscopal de Rouen que la sentence définitive, comme vous l'avez dit, a été prononcée le 7 novembre 1456.
La papauté avait elle-même envoyé des délégués, des légats, pour suivre ce procès.
Ah ben, il y avait un légat en France qui s'appelait Guillaume d'Estouteville. Mais enfin, disons qu'après un début où il est intervenu, somme toute, les juges du procès de réhabilitation sont des Français. Ce sont des Français qui appartiennent à différents milieux, des clercs tout à fait honorables et titrés. Alors ensuite, la papauté a été avertie du résultat, et donc... Et puis ensuite, eh bien, et après tout, on se dit deux choses. Premièrement, beaucoup d'historiens pensent que c'est, disons, un petit peu en deçà de ce que l'opinion publique attendait. Je pense qu'une partie de l'opinion publique française
attendait une vraie réhabilitation.
Une canonisation.
Oui.
Le début d'un processus de canonisation. Parce qu'il y a des textes de l'époque qui nous disent « Je suis assuré, nous sommes assurés que Jeanne d'Arc est au paradis ». Et du reste, la meilleure preuve, c'est qu'au début du procès de réhabilitation, la famille de Jeanne d'Arc avait demandé réparation, avait demandé une fondation pieuse pour qu'on prie pour l'âme de Jeanne d'Arc, n'est-ce pas ? Et avait demandé également l'inscription de la reconnaissance de son innocence dans les chroniques. Trois éléments. Or, à la fin, il y a eu un projet d'érection de croix à Rouen.
À Rouen, oui.
C'est vrai, donc il y a eu...
Qui ne s'est pas fait tout de suite.
Il n'y a pas eu, semble-t-il, d'insertion dans les chroniques. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a eu aucune fondation pieuse. Pourquoi est-ce qu'il n'y a eu aucune fondation pieuse ? Parce que les gens estimaient que c'était inutile.
Puisqu'elle était déjà au paradis.
Eh bien oui, pourquoi prier pour son âme si elle est assurée, si on est assuré qu'elle est au paradis. Donc il y a toute une partie de l'opinion qui, à mon avis, attendait un processus de canonisation. On aurait trouvé des miracles, etc. Il n'y aurait pas eu de problème. Bien. Et donc, l'Église est restée un petit peu en deçà.
Prudente.
Et peut-être que le roi également. Donc... ça suffit que Jeanne d'Arc soit rétablie, elle et les siens, dans sa bonne renommée. La tache est lavée et par conséquent, eh bien, les choses doivent rester en état.
Bon. Et d'ailleurs, Charles VII n'a pas fait plus que ça non plus.
Alors Charles VII, qui a la réputation d'être un roi assez ingrat, s'est arrêté là. Lui aussi. Il aurait peut-être pu aller plus loin, mais il y a eu sûrement des conciliabules à l'intérieur du Conseil royal. Il y a eu sûrement un dialogue entre, nous n'avons pas la trace, mais je le pense, entre le roi et le pape. Et puis ça s'est arrêté là. Voilà. C'était déjà assez bien. Il a fallu attendre, comme vous le savez, le 19e siècle, dans un autre contexte, l'action de Monseigneur Dupont-Loup, évêque d'Orléans, et puis de ses successeurs, pour que Jeanne d'Arc ait droit à un autre procès, un troisième procès.
Voilà.
Donc elle a été successivement déclarée vénérable en 1894, Elle a été déclarée bienheureuse en 1909 et elle a été canonisée en 1920.
1920, et là encore, évidemment, mais ce n'est pas le sujet de notre émission, mais la politique n'était pas absente, bien sûr, de cette canonisation de Jeanne d'Arc.
À l'évidence, mais je crois que l'élément le plus important, ça n'est pas la canonisation de 1920, donc on peut se dire que la papauté, Benoît XV, a voulu faire plaisir à la France victorieuse, etc., puisque une partie de l'opinion française, les catholiques français, pensaient que la France l'avait emporté grâce à Jeanne d'Arc et à Saint-Michel. Non, je crois que ce n'est pas le procès le plus important, me semble-t-il, c'est le procès de béatification par Pie X en 1909. Et là, la pression politique est beaucoup moins vive, si vous voulez. Donc, de ce point de vue-là, je crois que ce n'est pas simplement une canonisation politique. Ça va bien au-delà. Et si vous regardiez les actes du procès de béatification qui sont conservés, d'énormes volumes en latin, vous seriez frappé par le caractère franchement religieux de l'enquête, avec des témoins, avec des contre-témoins, etc. Voilà, donc l'enjeu politique, s'il existe, bon, toute canonisation a une dimension politique, mais l'enjeu politique, malgré tout, est assez discret dans les actes du procès de 1909.
Philippe Contamine, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce procès en nullité du premier procès de Jeanne d'Arc, donc qu'on appelle procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que dans la médiathèque de Canal Académie, on peut entendre la communication que vous avez prononcée devant l'Académie des sciences morales et politiques le 23 juin 2003. C'est une émission en séance. Et sur Jeanne d'Arc, nous avons aussi deux autres émissions en médiathèque. La communication du 11 octobre 2004 de Monsieur Jean Cluzel intitulée « Wallon, Jeanne d'Arc et la République » et une autre communication de Monsieur Cluzel intitulée « La République et la canonisation de Jeanne d'Arc » qu'il avait prononcée au moment du colloque de 1905. Et enfin, nous disposons aussi d'une interview de Colette Beaune dans l'émission « Un jour dans l'histoire ». Alors Jeanne d'Arc est bien représentée, bien étudié, et nos auditeurs pourront, je l'espère, apprécier tous les éclairages que nous pouvons leur apporter de meilleure qualité, de très bon niveau, pour mieux comprendre ce personnage fascinant de l'histoire. Merci, monsieur Contamine. À bientôt.
À bientôt.